Le journal des sciences.
Il ne vous aura pas échappé qu'il a fait un petit peu chaud cette semaine. Eh bien, accrochez-vous, ce n'est rien par rapport à ce qui est à venir. Près de 50% de la population mondiale sera exposée à des vagues de chaleur mortelles en 2100. Ce sont les résultats de la première étude sur le sujet. Elle n'est pas très optimiste, c'est le moins qu'on puisse dire, Xavier.
Oui, pas du tout, puisque près de 50% de la population exposée, vous l'avez dit, si la communauté internationale arrive à suivre les objectifs de l'accord de Paris de réduction des gaz à effet de serre, mais ce sera près d'un tiers de la population, si rien effet, donc en 2100. Ce sont les résultats de cette étude américano-britannique publiée cette semaine, la première du genre, à cartographier en quelque sorte le risque à l'échelle mondiale et avec de nouveaux moyens d'évaluer ce risque, pas seulement en fonction de la chaleur, mais aussi de l'humidité. C'est important puisque c'est le couple humidité-chaleur qui est déterminant, si bien que les zones très humides, tropicales et urbaines seront les plus exposées. Écoutez l'auteur de l'étude, Camilo Mora, du département de géographie de l'université de Hawaï. Pour lui, en fait, c'est tout simplement le choix entre le pire et la catastrophe.
Pour le moment, 30% de la population est exposée à un risque d'au moins 20 jours par an de dépassement du seuil de chaleur mortelle. Il y a eu beaucoup de tentatives pour essayer de quantifier le risque global lié aux vagues de chaleur. Le problème, c'est qu'ils se sont fondés uniquement sur des critères standards, en gros la température, alors que selon les endroits où on se trouve sur Terre, la température à laquelle on risque de mourir est complètement différente. Par exemple, nous avons vu des endroits en Europe où des gens sont morts lors d'une vague à 23 degrés, alors qu'il y en avait d'autres où c'était à 33 degrés. En fait, on s'est aperçu qu'en général, les zones les plus humides peuvent être potentiellement plus mortelles, même à température plus basse. La raison est simple, c'est parce que le corps se refroidit en transpirant et grâce à l'évaporation de cette transpiration. Mais quand l'air est déjà saturé d'humidité, la sueur ne peut plus s'évaporer, vous ne pouvez plus rendre de chaleur, et même des températures assez basses peuvent vous tuer. Si vous voulez un exemple de seuil, nous avons trouvé un exemple de cas dans lequel une température de 23 degrés et une humidité de 80% ont été la cause de surmortalité. Bien sûr, c'est un problème pour un grand nombre de villes dans le monde, surtout celles qui sont plus proches des côtes, parce que la chaleur crée une évaporation intense sur les zones côtières, et c'est une combinaison de mauvais facteurs, la chaleur de la journée et une nuit plus fraîche qui fait encore augmenter l'humidité de l'air. Autant dire que dans ces endroits, les vagues de chaleur ne vous laissent aucun répit.
Voilà pour l'avenir optimiste. En bref, maintenant, Xavier, l'Académie des sciences a pris position cette semaine en faveur de la congélation d'ovocytes.
Eh oui, 54 voix pour, 12 contre, 22 abstentions quand même, pour cette autoconservation ovocytaire ouverte à toutes, donc une technique qui consiste à congeler très rapidement ces ovocytes avant la ménopause. Théoriquement, la possibilité donc de cette congélation existe bien légalement, mais sous beaucoup de conditions, et elle ne permet pas donc pratiquement d'avoir assez d'ovocytes pour assurer une bonne fertilité, disent les médecins. En tout cas, la décision du Comité national d'éthique intervient la semaine prochaine, le 27 juin.
Dans l'espace maintenant, la Chine a réussi une prouesse technologique. Elle a réussi à prouver que le cryptage quantique fonctionne à partir d'un satellite.
Oui, ce sont deux particules dont le comportement est indissociable et qui sont situées à 1200 km de distance, arrivées sur Terre. C'est le résultat de cette première expérience d'utilisation des propriétés quantiques de la matière à partir de l'espace. Une idée folle, hein, disait Jan Wei Pan, le chercheur qui a réalisé cette expérience à la BBC, pouvoir donc réaliser un cryptage quantique, c'est-à-dire utiliser ses propriétés de la matière, notamment le fait d'agir instantanément à distance pour fournir des messages inviolables pour les télécommunications. Alors, expérience déjà difficile sur Terre, la distance maximum qu'on avait atteint était, je crois, de 200 km. Cette fois, un laser a fait le travail à partir du satellite. 10 millions de paires de photons ont été envoyées, une seule a pu être observée.
Et on reste dans l'espace avec notre deuxième sujet de la semaine, avec cette réunion à Madrid du comité scientifique de l'Agence spatiale européenne, l'ESA. L'agence valide notamment deux grandes missions d'observation par satellite, Xavier.
Oui, ce comité scientifique se réunit à peu près tous les 4 mois. Il a décidé de valider la poursuite de deux projets, effectivement. La première mission, c'est le LISA, qui touche à la recherche fondamentale, on pourrait dire, puisqu'il s'agit d'arriver à détecter les ondes gravitationnelles confirmées par des observatoires sur Terre depuis 2015. Pour continuer donc à valider la théorie d'Einstein de la courbure de l'espace-temps par des masses importantes, le problème, c'est que la portée de détection avec les appareils sur Terre, ces grands interféromètres laser, est limitée par leur taille, justement, puisqu'on mesure ces variations à la mesure de la distance entre les branches de l'interféromètre. Et bien là, ils vont être installés dans l'espace à 2,5 millions de kilomètres chacun, 3 satellites. L'objectif, c'est de dépasser la limite des 380 000 ans avant le Big Bang, limite visible donc. Cela donc avec les satellites les plus stables de l'univers. Écoutez, Fabio Favata, c'est le directeur de l'exploration scientifique et robotique à l'ESA.
Sur les ondes gravitationnelles, nous avons une technologie unique dans le monde. C'est une des raisons pour lesquelles on peut faire l'ESA et être les premiers à la Terre. La vraie grande différence, c'est la fréquence dans laquelle on peut opérer. Au sol, vous êtes limité à découvrir des sources de radiation gravitationnelle petites. C'est pour ça que l'IGO a découvert des choses très intéressantes, ça veut dire des trous noirs de la masse, de quelques dizaines de masses solaires. L'ESA, dans l'espace, permettra d'étudier des fréquences beaucoup plus bas, ce qui permettra d'observer des trous noirs beaucoup, beaucoup plus grands, la masse à un niveau des millions de fois de la masse du Soleil. Ça veut dire que les sources observées pour l'IGO sont des sources, disons, classe étoile, je les appellerai, et les sources qui vont être observées pour l'IGO sont classe galaxie. Franchement, on observera les trous noirs qui habitent les centres presque de toutes galaxies connues. On pourra étudier comme ces trous noirs, sa distribution de masse, et on pourra étudier comme ils ont influencé la formation de notre univers. On aura beaucoup, beaucoup de détections. Là, je vous ai parlé des sources les plus spectaculaires. L'ESA va être capable de détecter une énorme variété de sources, aussi des binaires des étoiles de neutrons. L'ESA va aussi être capable de détecter les mêmes types de sources que l'IGO a vues, mais beaucoup plus tôt dans sa vie. Ça veut dire on attend vraiment une fréquence de détection assez élevée. Ça va être vraiment une révolution de l'astrophysique.
Voilà, peut-être une révolution pour l'astrophysique en vue. En tout cas, côté budget, 1 milliard d'euros pour l'ESA. Et une deuxième mission validée par l'ESA cette semaine, c'est le programme Plateau pour 650 millions d'euros, celui-là.
Oui, alors pour l'ESA, il faudra encore 2 ans avant de démontrer certaines technologies. Mais Plateau est aussi une mission qui se veut innovante. Elle se place dans le courant de grandes recherches d'exoplanètes. Plateau pour Planetary Transit and Oscillations of Stars. C'est la méthode qui sera utilisée. Cela sera une plateforme d'observation par satellite encore, avec 26 petits télescopes construits par la Suisse sur un seul satellite. L'Université de Genève, qui était découvreuse de la première exoplanète il y a 22 ans, est elle chargée de l'observation. Alors aujourd'hui, on connaît 3600 exoplanètes. On a découvert les plus grosses au début, de plus en plus des planètes de taille comparable à la Terre, les plus probables d'être habitables. Le but donc est de continuer à découvrir ces planètes. Écoutez Pierre Bracci du département d'astronomie de Genève.
Plateau va chercher des exoplanètes hein, autour d'étoiles brillantes, autour d'étoiles qui ressemblent à notre Soleil. C'est une méthode qui est utilisée, c'est une méthode indirecte. Elle a été utilisée largement par le satellite de la NASA Kepler, qui a trouvé plus de 2000 planètes avec cette méthode. Seulement, ça nous donne juste une idée de la taille. Et on n'a pas une idée de la masse. Et pour ça, nous, on est assez spécialistes depuis la première découverte pour calculer la masse. Et une fois qu'on a la masse et la taille, eh bien, on a la densité et on peut dire si c'est une planète rocheuse ou une planète gazeuse ou une planète liquide ou autre chose. Ça nous intéresse en plus de ça d'avoir des planète autour d'une étoile qui est aussi vieille, entre guillemets, que le Soleil et qui permettrait éventuellement à la vie de se développer. C'est pour ça qu'une fois qu'on a trouvé les planètes avec Plateau, eh bien, on va chercher à essayer de savoir de quoi elles sont faites. Et puis, si par hasard, alors là, ça serait vraiment le Graal, s'il y a une atmosphère, est-ce qu'il y a dedans dans cette atmosphère? Puis la deuxième chose, on prend beaucoup de petits télescopes. Alors, pourquoi beaucoup de télescopes? Eh bien, ça permet d'avoir un grand champ dans le ciel et ça permet d'observer beaucoup d'étoiles à la fois. L'ambition de Plateau, c'est quand même plusieurs centaines de milliers d'étoiles pendant 6 ans et demi pour essayer de voir aussi s'il y a des planètes qui tournent en plus qu'une année, 2 ans ou 3 ans autour de leurs étoiles.
En revanche, l'Union européenne suspend un projet conjoint de chasse à l'astéroïde avec la NASA.
Oui, le projet DART, l'idée pour les États-Unis était d'effectuer la première frappe spatiale sur un astéroïde pour essayer de voir si on pouvait dévier sa trajectoire. Pour l'Union européenne, elle devait documenter l'impact par des images en positionnant une sonde en 2020, donc 2 ans avant l'arrivée de la sonde de la NASA. La mission à 250 millions d'euros a été suspendue faute de financement. Elle est soutenue par le Luxembourg, mais les gros pays spatiaux européens ont refusé, peut-être parce qu'il y a déjà une mission vers un astéroïde de la même sorte. En off, on nous dit que c'est plus compliqué.
Voilà, le CNES, lui, entérine plusieurs projets de coopération avec la NASA, dont 2 qui concernent Mars, Xavier.
Et oui, outre une mission de surveillance par satellite du niveau des eaux terrestres, là, le CNES et la NASA ont entériné au Bourget la fourniture cette année par la France de 2 types d'instruments pour 2 rovers de la NASA prévus pour 2018 et pour 2020. Il y aura un sismomètre pour la mission InSight qui étudiera le sous-sol de Mars l'année prochaine, donc, et puis une supercar comme son nom ne l'indique pas, un super laser qui chauffe à un point jusqu'à 8000 degrés, là pour fournir des informations capables de détecter des molécules organiques. Alors la conquête de Mars, c'est pour bientôt, on y croit, disait Jean-Yves Le Gall, le président du CNES.
Et d'ailleurs, Jean-Yves Le Gall que nous avions reçu ici, on va vous mettre tout de suite le lien vers l'émission sur le fil Twitter @laméthodefc de ce grand entretien avec le patron du CNES et futur patron du conseil de surveillance de l'ESA. Et pour finir, comme chaque semaine, Xavier, vous me promettez de me faire dilater les pupilles juste avec votre langage.
Et oui, je vais vous parler d'amour. En fait, c'est une étude de psychologie du langage avec une conclusion presque trop simple hein, quand on y pense. Quand on dit soleil, jour ou bien briller, eh bien, les pupilles de l'interlocuteur se dilatent. Ce sont les résultats d'une étude CNRS et d'université de Groningen sur 60 personnes afin donc de tester certaines hypothèses sur le langage. En fait, donc, on voit que des mots associés à la lumière produisent un véritable effet de dilatation sur les pupilles, hein, avec un pic une demi-seconde après leur prononciation et pendant 3 secondes environ. Que faut-il en conclure? Pour l'instant, les chercheurs supposent que le cerveau forme une sorte d'image mentale et que c'est donc sa visualisation qui aurait pour effet de rétrécir les pupilles, un peu comme en présence d'un surcroît de lumière. En tout cas, les mots neutres comme maison, renforcée ou lapin n'ont eu aucun effet. Voulez-vous qu'on essaye, Nicolas?